France Inter.
Aujourd'hui, le grand vacarme de l'océan, raconté par...
Laurence Paoli, autrice d'essais de vulgarisation scientifique.
Et Charlotte Curé, directrice de recherche en bioacoustique au CEREMA, UMR Acoustique Environnementale.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Il nous appelle mammifères marins, mais il ne nous regarde pas vraiment. Il mesure, compte, balise, trace, mais il n'écoute pas. Depuis quelque temps, je perçois des sons que je ne comprends pas, des grondements artificiels, des impulsions sèches, des bourdonnements constants qui envahissent l'océan comme une fièvre invisible. Ce ne sont pas des chants, ce ne sont pas des signaux de vie, ce sont des bruits morts produits par des machines. Sonar, forage, cargo, radar, transbondeur, ils parlent de progrès, moi je n'entends que le vacarme. J'ai vu mes sœurs fuir après l'usage de vos sonars basse fréquence, vos expériences contrôlées, des frappes sonores déclenchant nos évitements, nos brusques départs, nos interruptions de nous alimenter et nous poussant parfois jusqu'à l'abandon des zones où nous sommes exposés. Comme si ces bruits étrangers pouvaient à nouveau nous affaiblir, effacer notre monde fréquence après fréquence. Ils masquent nos émissions sonores et nous impactent. J'ai entendu le chant d'un jeune mâle se briser sur un mur d'écho amplifié par votre vacarme. Parfois, un seul de vos bateaux suffit à réduire plus de la moitié de notre espace de communication, modifiant la structure et le rythme même de nos chants. J'ai ressenti ces vibrations sourdes, si puissantes qu'elles ont fait trembler mes sacs laryngés, comme un tambour frappé de l'intérieur. Vous parlez de dérangement, c'est plus que cela, c'est un empêchement d'exister. Vos sons anthropiques interfèrent avec nos vocalisations naturelles, couvrent nos communications, nous forcent à l'adoption de fréquences inhabituelles ou plus basses, ils nous chargent de stress, élève notre rythme cardiaque, nous pousse à une fuite désorganisée, parfois jusqu'à la stérilité ou à la mort. Cela me fait pleurer, même en basse fréquence. Extrait du livre « Vos silences, nos mots », confidence d'une femelle baleine à bosse de Nadège Gandilon.
Les enregistrements effectués montrent que même distants de 500 mètres les uns des autres, les actions et déplacements des cachalots étaient concertés et synchrones, ce qui implique qu'ils communiquent entre eux. Que se disent-ils ? On n'en sait encore rien. Seule certitude. Les écoutes ont confirmé que les cachalots ont une intelligence collaborative fondée sur la communication sonore. Or, en temps ordinaire, on entend ça. Un vacarme dû aux pales, aux moteurs des navires et aux sonars.
Extrait de la chaîne YouTube Slice Histoire, c'était en 2023. Laurence Paoli et Charlotte Curé, bonjour.
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 Merci d'être avec nous aujourd'hui. Laurence Paoli, vous publiez chez Actes Sud le chant perdu des baleines, quand la pollution sonore étouffe les voix de l'océan, dans lequel vous expliquez comment justement la pollution sonore issue des activités humaines bouleverse totalement l'équilibre des océans. Et vous évoquez entre autres le travail de Charlotte Curé, ici même. Comment est-ce que vous êtes rencontrés?
On s'est rencontrés grâce à Flore Samaran, qui est aussi une spécialiste des baleines et surtout des baleines bleues, et qui a monté un colloque, enfin qui co-organise un colloque qui s'appelle Sérénade. Et Charlotte était évidemment une des invitées, puisque c'est une des grandes spécialistes des cétacés, puisqu'elle fait des playbacks, enfin elle va vous raconter ça très bien. Donc du coup, j'ai eu la chance d'avoir Charlotte et de pouvoir l'interviewer pour mon livre, et elle a accepté de me répondre.
Charlotte Curé, des playbacks de baleines, qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Oui. Donc les playbacks, c'est une méthodologie pour essayer de comprendre ce que se disent les animaux. Donc en fait, le principe, c'est d'émettre un son et de mesurer la réponse comportementale de l'animal pour voir comment il répond à ce son. C'est aussi un peu ces techniques-là qu'on utilise pour évaluer l'impact d'un bruit dont on soupçonne qu'il pourrait perturber le comportement de l'animal. On diffuse ce bruit et on regarde le comportement. Et donc chez les oiseaux, les mammifères terrestres, c'est des expériences qui ont été pas mal développées dans la deuxième moitié du 20e, mais par manque de technologie efficace, chez les cétacés, c'était très compliqué. Donc moi, je me suis vraiment focalisée sur essayer de monter ce type d'expérience chez les cétacés pour en apprendre plus sur l'importance des sons qu'ils émettent et puis l'impact des sons émis par l'homme dans les océans.
Et donc vous plongez avec vos enregistrements ?
Non. Je ne plonge pas avec les enregistrements, je suis équipée d'outils, de matériel. Donc on a des hydrophones pour enregistrer les sons, qui sont des micros qu'on met dans l'eau. Et puis on a aussi une technique, l'ère du biologging à la fin du 20e, avec toutes ces balises munies de capteurs qu'on fixe sur les animaux de manière temporaire et qui permettent finalement de mesurer le comportement de manière continue des animaux, sans qu'on ait besoin de les approcher ni de les toucher. On pose la balise et à partir de ce moment-là, ça enregistre leur comportement.
On va en parler évidemment de ces résultats, Laurence Paoli, avec votre livre qui s'ouvre sur une prise de conscience, la vôtre, avec des scènes vécues à Tadoussac, au Québec, en mer de Chine ou en Australie. Qu'est-ce qui vous a poussé à enquêter sur cette thématique de la pollution sonore ?
Parce qu'en fait, j'ai toujours travaillé au muséum et puis après avec mon agence de com sur la mégafaune et la mégafaune terrestre plutôt. Puis j'étais passionnée par la mégafaune marine. Et puis je nage énormément. Mon père était corse et puis j'ai passé mon enfance un peu dans l'eau. Et j'avais beaucoup la tête sous l'eau et j'entendais beaucoup les bruits des bateaux. Et je me posais pas mal de questions sur justement cette interruption sonore systématique. Et puis j'ai pu passer des écrits dans mon travail. J'avais pas le temps de m'y intéresser plus que ça, mais je les ai mis de côté. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, il y a un vrai sujet passionnant dont on entend peu parler. Et je l'ai proposé à l'éditeur Actes Sud qui m'a dit, bingo, allez-y. Et là, j'ai commencé mon enquête, mais j'imaginais pas une seconde à quel point ça allait être complexe et à quel point j'allais devoir me pencher sur des histoires d'algorithmes et de propagation du son qui, pour moi, était un véritable cauchemar. Parce que j'étais très naïvement sur la communication des mammifères marins, sur la beauté de la chose, sur les essais scientifiques, etc. Mais il y avait aussi la partie physique, mathématique, qui était autre chose, mais bon, qui une fois qu'on l'a creusé, qui est passionnante aussi, qui explique beaucoup de choses.
Donc vous avez mené l'enquête sur la cacophonie des océans,
c'est ça ? Mener l'enquête sur la cacophonie des océans. Alors, comment on en a pris conscience au départ ? Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et puis, quelles sont les solutions ? C'est ça qui m'intéresse, en fait, parce que c'est aussi une pollution passionnante, parce que si elle s'arrête, les choses peuvent aller mieux. Ça, c'est le premier point, très vite, contrairement à la pollution plastique ou des pollutions chimiques. Et puis ensuite, parce que il y a des solutions qui sont mises en œuvre actuellement et qui commencent à fonctionner.
Et c'est vrai qu'on en parle peu, d'ailleurs, de cette pollution. On parle beaucoup de la pollution plastique, chimique, lumineuse, mais rarement de la pollution sonore des océans. Il y a un vrai retard de prise de conscience là-dessus.
Bah oui, parce que comme le disait Charlotte, c'est très compliqué en fait à mesurer. On a mis énormément de temps à comprendre que tous les animaux marins parlaient en fait, ou en tout cas utilisaient le son. Alors les odontocètes, en tout cas les cétacés à dents, c'était facile parce que quand ils sifflent à l'extérieur, on les entend. Mais si vous voulez, les grandes baleines, ça a été très compliqué parce qu'elles sont en amphrasson. Au fond, on ne perçoit rien. Et alors les poissons, n'en parlons même pas. Et les mollusques qui perçoivent le son pourtant, et les crustacés qui s'en servent aussi pour communiquer, même de façon beaucoup plus rudimentaire, on va dire, que les mammifères marins, se servent du son. Donc dans l'eau, c'est un sens absolument essentiel, mais nous, on est très limités avec notre écoute. D'une part, le milieu est très différent, et ensuite, nous, on va entre 20 et 20 000 Hz, et eux, ils sont largement en-dessus ou largement en-dessous. Donc c'était la part muette, d'ailleurs, Cousteau l'avait dit, la part muette du monde. Ouais. Or, c'est une part extraordinairement bruyante, et ils ont besoin de pouvoir s'entendre.
Charlotte Curé, pour une scientifique comme vous, qu'est-ce que ça veut dire, écouter l'océan ?
Donc écouter l'océan, c'est déjà décrire tous les types de sons qui peuvent exister. Alors il y en a certains qu'on entend nous avec notre capacité auditive, mais d'autres sons qu'on n'entend pas aussi, comme parlait Laurence, il y a les infrasons donc émis par les grosses baleines. Et puis il y a aussi les ultrasons émis par des odontocètes qu'on n'entend pas, des clics d'écholocation qui vont vraiment dans des sons tellement aigus qu'on ne les entend pas. Donc il y a tout ce qui forme la biophonie, les sons émis par les animaux, mais il y a aussi d'autres sons naturels qui constituent ce qu'on appelle la géophonie, qui vont être avec par exemple des craquements émis dans l'eau, par les courants, la pluie. Et puis, il y aura aussi, après, s'ajoute à ça, des sons qui vont être anthropiques, donc générés par l'activité humaine. Et donc l'anthropophonie va s'ajouter au bruit naturel de la géophonie, de la biophonie.
Charlotte Curie, vous nous avez apporté des enregistrements. Hein. Justement, j'étais en train de régler ça précisément avec Jérôme Prudhomme qui est à la réalisation, pour qu'on entende aussi ce qui se passe directement
tout
dans l'eau.
Fait.
On va écouter le chant d'une baleine à bosse pour commencer. Ça se passe dans l'océan Indien, selon les petites notes que vous nous avez données, sur une aire de reproduction. Et on va écouter tout de suite ce que ça donne. Ça, c'est très caractéristique d'une baleine à bosse, ce qu'on entend là, Charlotte Curé.
Oui, donc ça, c'est des chants donc supposés être émis par les mâles hein, chez les baleines à bosse et qui sont émis pendant, ça peut être une heure, voire même un peu plus. Hein,
ouais. À quelle occasion, dans quel contexte, alors le mâle émet ce type de son ?
Oui, donc on pense que c'est pour séduire les femelles. Très sexy comme chant.
Ouais.
Mais ça n'a pas été démontré encore. Et on espère que justement avec les playbacks, on va pouvoir démontrer la fonction des chants.
Et alors là, le monde sonore d'une baleine à bosse, par exemple, est-ce que c'est réellement ça ? Parce que là, on a vraiment le chant isolé, mais l'environnement réel, est-ce que c'est ça que cet animal entend ou pas ?
Oui, donc là-bas, donc dans l'océan Indien, là, ça fait 3 saisons qu'on y va là en ce moment pour effectuer justement des enregistrements, des mesures, regarder l'impact des bruits de bateaux. Mmh. Et dans les océans, là, c'est une vraie discothèque de baleines. Hein. Il y a énormément de mâles. Donc on voit que ça a une fonction. Les animaux ne vocalisent pas comme ça pour rien. Donc on voit vraiment que c'est important.
Laurence Paoli, et comment vous avez rendu perceptible ce phénomène invisible quand même de la pollution sonore dans votre ouvrage? Comment on s'y prend exactement?
Comment j'ai fait pour... en fait, j'ai raconté les vies des chercheurs. C'est ça qui me passionnait. D'abord, j'ai raconté l'historique de la prise de conscience, parce qu'elle est passionnante. Je salue au passage Jean-Paul Lagardère, qui a été un des premiers à tirer la sonnette d'alarme, lui, pour les crustacés et pour les poissons. Mmh. À l'époque, il n'a pas été écouté du tout. Et puis ensuite, ce sont les échouages de baleines qui, petit à petit, ont fait qu'on s'est penché sur la chose en les disséquant. On s'est rendu compte, effectivement, très vite qu'il y avait, plus ou moins vite, qu'il y avait des lésions dans le cerveau, dans la tête et puis dans l'appareil auditif. Et puis beaucoup plus tardivement, on s'est rendu compte qu'il y avait des bulles d'azote dans le sang et qu'elles faisaient des accidents de décompression. Et que ces accidents de décompression étaient provoqués par des remontées brutales qu'elles ne géraient pas et qui, donc, les tuaient. Ces remontées était provoquée par la peur, en fait, générée par le son. Donc, pour en revenir à votre question, donc j'ai travaillé sur cette historique et sur cette découverte, puis ensuite je suis allée à la rencontre de gens comme Charlotte qui m'ont expliqué leur travail, parce que ça peut être tellement abstrait, comme vous dites, puis en plus il n'y a pas le son dans mon livre, qu'il fallait que je raconte la vie de ces gens-là, et j'ai découvert des profils extraordinairement différents. Charlotte, elle ne le dit pas, on ne le sait pas, et d'ailleurs ses collègues ne le savaient pas, elle a été musicienne classique, elle aurait pu être concertiste.
Et c'était quoi votre instrument d'ailleurs ?
Le violon.
Ouais. Et ça vous a servi pour le chant des baleines après ?
Ça m'a servi au départ pour tout de suite avoir, on va dire, un petit peu l'intuition des bonnes hypothèses à émettre. Et puis, quand on regarde les sons sur des spectrogrammes, c'est vrai que tout de suite, je me suis dit, tiens, ça se lit un peu comme une partition, donc ça m'a parlé. Mais après, il y a eu quand même pas mal d'études en biologie.
Et Gianni Pavan était aussi musicien classique. Noémie, elle travaille plutôt du côté techno, ou je ne sais quoi, mais elle est aussi musicienne.
D'avoir l'oreille.
Donc ça donne une bonne sensibilité pour comprendre le langage des animaux marins.
Oui. Et pour lire les sonogrammes.
Oui.
Charlotte Curé, comment on distingue un son naturel d'un son émis par les activités humaines, justement, dans l'océan ? Ça, vous arrivez à le reconnaître facilement ?
Donc, oui, mais alors justement, il y a un gros travail là-dessus qui est de décrire, en fait, tous les types de sons des paysages sonores.
Ouais.
Donc, il y en a maintenant qui ont été bien caractérisés, donc qu'on connaît bien. Et puis, alors, pour les animaux, c'est compliqué parce que des fois, on entend des sons, on ne sait pas d'où ça vient. Et comme les animaux marins sont très souvent, la plupart du temps, sous l'eau, donc invisibles pour nous, faut aller essayer de savoir qui est produit tel son. Donc ça a été un grand travail, de la découverte déjà de toute cette diversité sonore sous-marine. Et puis après, qui produit quoi et dans quel contexte, et puis ça sert à quoi, et mettre les bonnes hypothèses. Et c'est là que justement pouvoir voir le comportement et l'associer à des sons émis, ça a été un gros travail qui a été rendu possible avec ces fameuses balises qui permettent de mesurer le comportement et qui permettent d'écrire le répertoire vocal.
Et puis il y a aussi la problématique dont me reparlait Fabienne Delfour, en fait, qui est spécialiste elle aussi, plutôt des dauphins, et qui me disait qu'en fait ils n'ouvrent pas la gueule. Donc quand vous avez un groupe de dauphins, même à la surface, qui parle, vous ne savez jamais quel est celui qui parle. Donc associer un comportement à un son qui sort, mais d'un groupe, c'est très compliqué. Pour les grandes baleines, je ne sais pas comment ça se passe en fait.
Non, c'est pareil. C'est pareil. Je veux dire, surtout les cétacés, la bouche ne va pas bouger
du tout, voilà.
Pendant qu'ils vocalisent. Donc c'est des systèmes qui ont été bien décrits. Mais...
Comment est-ce qu'on a pu transformer l'océan en salle des machines, c'est ce que nous verrons dans un instant. Et puis vous répondrez également aux messages et aux questions des auditeurs et auditrices qui arrivent sur la page de la Terre au Carré et nos réseaux sociaux. Et vos messages vocaux, car nous aussi on peut entendre vos sons directement avec l'appli Radio France.
Mathieu Vidard, La Terre au carré.
En Nouvelle-Zélande, au Japon ou au Cap-Vert, des dizaines de cétacés se sont échoués ces dernières années sur les côtes. Des échouages mystérieux, mais dont l'une des causes pourrait être la pollution sonore des océans. En règle générale, l'activité humaine produit du bruit, beaucoup de bruit. Parmi les causes possibles, il y a par exemple la circulation des cargos. Depuis les années 80, le commerce maritime a triplé et aujourd'hui, plus de 60 000 navires sillonnent les mers du globe.
Extrait d'une vidéo du Monde en 2020, Laurence Paoli, Charlotte Curé, nos invités à l'occasion de la publication de ce livre « Le champ perdu des baleines, quand la pollution sonore étouffe les voix de l'océan », c'est chez Actes Sud. Alors justement, Laurence Paoli, si on peut comparer la mer à une sorte de laboratoire du bruit humain, quelles sont les principales sources du bruit sous-marin? Il y en avait quelques-unes là, qui étaient évoquées dans cet extrait.
En fait, vous avez deux principales sources. Vous avez ce qu'on appelle les sons impulsifs, et ça c'est plutôt
les sons
impulsifs. Ouais. Et ça c'est plutôt les sonars, le battage de pieux lorsqu'on construit des éoliennes, et puis la prospection sismique, et puis par exemple les travaux portuaires. Et puis vous avez les sons continus qui ont été découverts un peu plus tard, entre guillemets, enfin dont les effets négatifs ont été découverts plus tard. C'est le trafic maritime. Le trafic maritime, alors les sons impulsifs vont affoler les animaux, leur faire peur, les blesser, les faire fuir. Mais le trafic maritime va créer un brouhaha continu qui va masquer leur communication, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus s'entendre parler, qui va créer un stress chronique et qui va petit à petit vider l'océan de leurs sons. En fait. Donc si vous voulez, quand vous avez ces deux types de sons qui s'additionnent, ça fait quand même un univers sonore extrêmement anxiogène pour l'ensemble de la faune marine.
Charlotte Curé, physiologiquement, qu'est-ce qui se passe alors chez l'animal qui est soumis à ces bruits qui ne font pas partie naturellement de son environnement ?
Oui, alors en fait, il y a deux types d'effets qui ont été montrés. Il y a des impacts physiologiques, donc par exemple, si la source sonore est trop forte, que l'animal est à proximité, ça peut endommager son système auditif, donc le rendre soit sourd temporairement ou de manière irréversible, ou bien vraiment casser ce système. Donc là, s'il devient sourd, il ne survit pas. Et puis donc, ça peut provoquer des peurs paniques, donc des animaux qui se désorientent et qui finissent effectivement par s'échouer. Et donc là, c'est plutôt dans la catégorie effet néfaste sur le comportement. Donc des fois, il y a eu des autopsies de fait ne démontrant pas de problèmes avec l'autopsie particulier. Et donc là, on a fortement soupçonné qu'il y avait peut-être quelque chose qui se passait au niveau du comportement qu'entraînait l'échouage. Mais le lien de cause à effet de ces échouages était compliqué. On essayait de relier ça avec des coïncidences de sons émis dans le temps, dans l'espace, avec ces échouages en masse. Mais ça a été très compliqué de pouvoir démontrer vraiment que c'était dû à ça.
Est-ce qu'il y a des poches de silence encore aujourd'hui dans l'océan? C'est finalement très difficile d'échapper au bruit des activités humaines.
Je pense que c'est très difficile d'échapper au bruit. Maintenant, il reste quand même des zones sans bruit. Il y a des populations justement un peu naïves qui sont très intéressantes à étudier parce que justement, elles ne se sont pas, par exemple, habituées au bruit ou elles n'ont pas encore réagi à ça. Mais je pense là, au pôle Nord, il y a les glaces qui fondent, il va y avoir des nouvelles routes maritimes et il y a des espèces là-bas qui n'ont jamais été encore soumises à une exposition comme ça, chronique du bruit, et comment vont-elles réagir? Et en général, c'est des populations qui sont ultra sensibles, du coup.
Laurence Paoli, ce bruit omniprésent, c'est un vrai symptôme de notre civilisation, quand même. Hein.
Tout à fait, mais c'est un symptôme, je dirais, encore une fois, c'est un symptôme, certes, mais c'est un symptôme qui est dû au fait qu'on s'est, je me répète, mais qu'on s'est pas rendu compte. On est arrivé sur la surface des eaux en se disant youpla boum, et on n'a pas du tout cherché à amoindrir le bruit qu'on faisait parce qu'on voyait pas l'intérêt de l'amoindrir, puisqu'on n'avait pas conscience que les animaux en dessous avaient besoin du son pour survivre et qu'on les gênait quotidiennement. Maintenant qu'on a pris cette conscience-là et qu'on le sait, il y a quand même des tas de mesures qui commencent à être prises, d'incitation, on va dire, indirecte, et qui sont des mesures qui fonctionnent quand même pas mal, tant au niveau du trafic maritime que des essais militaires, que de la prospection sismique, etc. Où vous avez maintenant ce qu'on appelle des guidelines, où on demande aux gens de ne pas dépasser certains seuils, de faire monter le son progressivement, de repérer s'il y a des mammifères marins à proximité ou pas, pour ne pas démarrer les travaux à ce moment-là. Et puis vous avez des incitations maintenant obligatoires mais indirectes, qui sont qu'en fait on demande à tous les navires de se décarboner, Mais en fait, en leur demandant ça, on leur demande de nettoyer plus leur coque, d'avoir une glisse bien meilleure, d'utiliser des voiles, de ceci, de cela, toutes choses, et de régler leur hélice, toutes choses qui vont diminuer le bruit de fait. Donc en fait, c'est un symptôme, mais c'est un symptôme, d'après moi, qui va aller en s'amoindrissant.
Est-ce que les éoliennes offshore, qu'on associe évidemment à la transition verte, posent aussi des problèmes, Charlotte Curé ?
Donc, il y a plusieurs phases, en fait. Il y a la phase de construction, déjà, des éoliennes, qui ne produit pas du tout les mêmes types de bruit que la phase de fonctionnement. Puis après arrive la phase de démantèlement aussi. Donc, je dirais que pendant la phase d'implantation d'un parc éolien, si on utilise du battage de pieux, ou voilà, ça dépend si c'est des éoliennes implantées,
forage,
ça, on sait que ça produit des sons, comme tu disais, impulsifs, très très forts. Donc, il y a des mesures qui sont prises de temps en temps de mettre des rideaux de bulles, en fait, qui atténuent un petit peu le son et donc l'empêchent de se propager et d'avoir des effets sur la faune. Mais après, une des éoliennes en fonctionnement, en fait, on connaît très peu aujourd'hui les effets. Il y a beaucoup de recherches là qui sont...
Mais on peut quand même essayer d'avoir des technologies plus silencieuses. Laurence Paoli.
Comme disait Charlotte, vous avez en fait, tout le monde travaille là-dessus. On essaye d'atténuer le son au maximum. Les rideaux de bulles, effectivement, marchent très bien. On est en train de passer aux éoliennes flottantes qui vont demander, effectivement, qui vont faire moins de bruit.
Parce qu'elles seront construites à l'extérieur.
Et puis, on ne va pas faire ce fameux battage de pieux terrible pour les arrimer dans le fond des océans. Donc, on a bien conscience de ça et on essaye quand même. Voilà. Mais comme disait Charlotte, la vraie problématique, c'est que pour l'instant, nos champs d'éoliennes, ils sont assez petits. Or, on est obligé d'aller concevoir des champs d'éoliennes qui vont être énormes. Et on sait qu'une éolienne actuellement en activité ne pose pas vraiment de problème au fond de l'eau, mais une éolienne, 10 éoliennes, 100 éoliennes, qu'est-ce que ça va faire en fait ? Donc là, pour l'instant, on est dans un inconnu total. Et puis, on parle beaucoup des mammifères marins, beaucoup des poissons, mais les mollusques, il y a très peu d'études ou quasiment pas dessus. Donc par exemple, si j'ai deux secondes, je vous parle du recrutement larvaire des coquilles Saint-Jacques, on sait par exemple que pour elles, le battage de pieux, c'est une catastrophe, et le vibrofonçage en est une autre, parce que ça fausse complètement l'écho. Elles se fixent en fait en écoutant, à leur façon, un écho favorable pour aller se poser. Et quand elles ne peuvent pas l'entendre, elles s'épuisent, elles s'étiolent, elles se posent n'importe où, au dernier moment, elles meurent. Et quand il y a du vibrofonçage, elles ont un bruit charmant qui leur plaît et elles vont se poser beaucoup trop vite n'importe où aussi. Donc il y a plein de choses qu'il faut encore étudier.
Charlotte Curé, on va écouter une orque spécialisée, s'il vous plaît, dans la consommation de harengs. C'est vous qui nous avez livré cet enregistrement.
Enregistré en Norvège.
Alors, à quoi vous voyez que ce chant correspond précisément à une appétence pour le hareng ? C'est parce que vous avez vu la scène, en fait ?
Alors, juste là, en fait, c'est une orque qui se nourrit de mammifères marins.
Ah, c'est l'autre son, alors. Très bien. Donc, c'est le deuxième son. On ne vous aurait pas contredite.
Merci.
Donc là, c'est le son de l'orque qui se nourrit de mammifères marins.
Tout à fait. Très bien. Ça, c'est l'orque qui se nourrit de mammifères marins. Et donc, émet des cris, moins de clics que l'orque qui se nourrit de hareng. Parce qu'il y a plusieurs formes d'orques, en fait. Et elles se différencient par leur spécialisation dans un type de proie ou quelques types de proies. Et elles ont des sons particuliers. Donc on arrive, en faisant des analyses acoustiques, à voir qu'elles présentent des petites différences. L'orque étant le prédateur au sommet de la chaîne alimentaire des écosystèmes marins, on se dit que c'est une espèce quand même importante. Il en existe plusieurs formes. Certaines orques sont prédatrices des autres cétacés, des baleines. Alors, l'idée, c'était de savoir, est-ce que les baleines sont capables de faire la différence entre les différentes formes d'orques, celles qui vont ne poser aucun problème, voire même leur indiquer la présence de poissons, de harengs, donc dans telle zone, ou alors des orques qui vont potentiellement s'attaquer à elles ou à leurs petits, et donc elles, il va falloir mieux vaut les éviter. Donc c'est un exemple en fait d'utilisation d'expérience de playback que j'avais fait, où j'avais diffusé les deux types de sons d'orques à des baleines qui étaient munies de balises, et on avait montré que elles étaient bien capables de discriminer les deux types d'orques, puisque les orques se nourrissant de harengs, elles étaient attirées à la source sonore et elles essayaient d'explorer pour trouver du poisson, du hareng. Alors que la réponse aux orques potentiellement prédatrices, c'était la fuite directive, vraiment.
Donc ça, c'était en Norvège, enregistré en Norvège.
Ça, c'était en Norvège, oui, exactement.
Laurence Paoli, est-ce que vous avez rencontré beaucoup de marins ou d'ingénieurs qui sont conscients aujourd'hui du problème de la pollution sonore marine ?
Oui. Il y a beaucoup de marins, beaucoup d'ingénieurs, beaucoup d'armateurs qui sont conscients de cette problématique et qui la prennent en compte. Et c'est ça qui est passionnant dans cette communauté qui travaille justement sur le son sous-marin et sur la pollution sonore, c'est qu'elle est extraordinairement vaste. Alors vous avez des gens comme Charlotte spécialisés des cétacés, mais vous avez des gens comme Eric Parmentier qui sont des spécialistes des poissons, mais vous avez effectivement des ingénieurs, des physiciens, des mathématiciens, des armateurs, et tout ce petit monde travaille ensemble de concert. Vous avez des associations comme Il faut que je salue, qui depuis très très longtemps se bat contre le biosous-marin pour porter cette problématique à l'attention du grand public. Et tout ce petit monde travaille ensemble, parce que chacun a une réponse partielle, en fait, à cette problématique. Et donc, il faut bien cumuler toutes ces informations pour arriver à trouver des solutions. Et effectivement, ce que je trouve génial dans cette histoire, c'est que d'abord, les gens collaborent et ensuite, les solutions font appel aux interdictions associées à cela, comme d'habitude, mais aussi à la créativité humaine. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut trouver de nouvelles solutions techniques, technologiques, pour faire moins de bruit. Ça, c'est génial.
Sauf que pour l'instant, c'est pas magique. Hein. Il y a encore beaucoup, beaucoup de bruit
encore,
dans les océans.
Et ça va durer un certain temps.
On va parler des solutions dans un instant. Charlotte Curé, la pandémie de 2020, ça a été un grand moment d'écoute, j'imagine, pour les chercheurs.
Oui.
Vous avez observé des choses que vous n'aviez pas entendues auparavant
ou Oui, pas effectivement. Donc, dans plein d'endroits où on a pu avoir une surveillance acoustique, il y a eu une musique qui s'est réveillée sous l'océan. Et qui
C'est vrai
effectivement, oui. Donc, plein de sons qu'on n'entendait plus et qui sont de nouveau apparus. Donc,
ça et ça, c'est la première fois que vous entendiez des séquences comme ça ?
Oui, bah à ce point-là, sans effectivement masquage ou parce que ouais. Même nous, en tant que scientifiques, hein, quand on enregistre des espèces, le fait qu'il y ait du bruit humain aussi autour, c'est embêtant, quoi. Ça pollue un peu nos enregistrements aussi. Donc là, c'est vrai que c'était vraiment super de pouvoir voir que quand le bruit s'arrête, la faune reprend sa place d'un point de vue acoustique.
Vous avez la prospection sismique que vous entendez à des milliers de kilomètres, en fait.
Oui,
qui
oui,
vous pourrit la vie aussi. Ouais.
Oui, bah c'est arrivé que par hasard sur des enregistrements, on est un sonar militaire, voilà.
Et qui venait de milliers de kilomètres plus
oui,
loin.
Oui, bah qui venait, on ne sait pas où en fait, hein, on n'est pas capable
mais
de le
sophar,
dire. Mais
c'est là qu'il faudrait parler du sophar, expliquer le canal sophar, le fameux canal sophar qui transfère les ondes en basse fréquence à des milliers de kilomètres en fait, et c'est assez extraordinaire. Donc c'est génial pour les baleines qui l'utilisent pour parler à des milliers de kilomètres, mais c'est moins bien pour la propagation du son humain qui se balade aussi dans ce canal.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Ici, nous écoutons principalement les herbiers marins et les laminaires. Ce sont des pouponnières. Les petits poissons et les petites larves y grandissent. Elles protègent de l'érosion, produisent de l'oxygène, stockent du carbone et jouent de nombreux rôles importants dans les écosystèmes. Et le trafic maritime nuit à la communication des animaux. C'est comme si vous viviez à côté d'une autoroute ou d'une route très fréquentée et que les voitures passaient tout le temps. C'est ennuyeux.
La voix de Lucia Di Lorio de l'Université de Perpignan dans une vidéo d'Euronews en 2023. Laurence Paoli, Charlotte Curé, nos invités pour la sortie de ce livre, Le champ perdu des baleines, quand la pollution sonore étouffe les voix des océans. C'est chez Actes Sud. Charlotte Curé, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Quelles sont les solutions les plus efficaces aujourd'hui pour réduire le bruit sous-marin ?
Oui, donc en fonction du type de bruit émis, on va pas avoir les mêmes types de solutions, mais déjà il y a éviter les zones sensibles où on sait qu'il y a des espèces, par exemple, plus vulnérables que d'autres, et donc éviter de faire du bruit dans ces zones-là ou dans des moments, des périodes de l'année où on sait qu'elles vont être là. Pour les bruits très très forts, très impulsifs, comme le battage de pieux, on le disait tout à l'heure, on peut mettre des rideaux de bulles autour qui permettent d'atténuer le son. Et puis tout ce qui concerne le bruit continu du trafic maritime, par exemple. Donc là, il y a vraiment un gros travail en ce moment qui est en train d'être fait.
Sur la réduction de la vitesse, Laurence Paoli, c'est ça, sur les navires ?
Alors, oui.
Ce serait une solution, en tout cas.
C'est une solution, mais pas pour tous les navires, c'est surtout une solution pour les collisions, qui pose un vrai problème. Il y a 20 000 baleines qui sont tuées chaque année à cause des collisions, et effectivement, la réduction de vitesse pourrait aider.
Et d'autres solutions ?
Oui, bah alors là, je rebondis un petit peu sur cette problématique qui est très complexe. Pourquoi ? Parce que d'une part, les navires sont préoccupants parce que leur bruit va impacter les espèces. Mais d'autre part, s'ils deviennent trop silencieux, est-ce qu'on ne va pas augmenter le risque de collision avec les baleines, puisque le bateau silencieux, elles ne l'entendent plus arriver. Ouais. Donc c'est très compliqué. En ce moment, on est face à cette problématique. On rend les bateaux de plus en plus silencieux. Mais du coup, finalement, est-ce que vraiment ça va améliorer les choses ? d'un point de vue...
Donc il faudrait quoi, des dispositifs d'alerte quasiment, comme des klaxons pour animaux marins?
Alors là encore, c'est double problématique, puisque ça a été une idée, pourquoi pas, du type pinger, c'est-à-dire une sorte d'alerte qu'on met par exemple sur la coque des bateaux pour essayer d'avertir les baleines, mais... Encore une fois, on arrive dans la problématique du bruit, c'est-à-dire qu'ajouter du bruit au bruit déjà existant, est-ce que finalement on ne va pas continuer là d'être dans un problème sans fin? Donc là, dans les recherches actuelles, je travaille beaucoup sur développer des méthodes qui auront très peu d'empreintes dans l'environnement sonore des espèces, notamment par l'utilisation de sons naturels plutôt que des sons synthétiques.
C'est-à-dire ?
Par exemple, des sons émis par les espèces elles-mêmes, ou des sons émis par d'autres espèces, dont on sait maintenant, avec les résultats de la recherche fondamentale, qu'ils vont avoir un potentiel effet attractif ou répulsif, mais que donc finalement la signification de ces sons va peut-être avoir un peu plus d'effet sur les animaux qu'un simple klaxon qu'on émettrait.
Mais ça veut dire qu'il faudrait dans tous les océans du monde mettre ces dispositifs pour que les animaux puissent être protégés?
Donc là, c'est exploratoire, et je ne pense pas qu'il y ait une méthode qui va convenir, universelle, qui va convenir à toutes les espèces, à tous les contextes, à toutes les applications, parce qu'elles sont nombreuses. Il y a prise accidentelle dans les filets de pêche, déprédation, collision, plein de problématiques. Donc oui, non, ça va...
Ah, mais c'est super intéressant, ça.
Laurence Paoli.
La nouvelle méthodologie explorée par Charlotte, elle est super intéressante. Non, je suis comme elle. Il y a plein de solutions. En fait, il y a beaucoup de... Encore une fois, je reviens sur les guidelines, c'est-à-dire que l'Organisation Maritime Internationale a vraiment sorti des recommandations très précises maintenant pour les bateaux, en disant, écoutez, voilà, il y a plein de choses à faire. Il y a des équipements embarqués, well alert, des choses comme ça, qui sont vraiment très bien et qui permettent d'avertir lorsqu'on repère un mammifère marin. Réduire la vitesse, c'est très bien dans certains cas aussi, parce qu'en fait, les mysticètes, les plus grosses baleines, en fin de compte, ont du mal à bouger vite. Et quand elles sont à la surface, si le bateau va trop vite, elles se le prennent. Voilà, il faut leur laisser le temps de partir. Il y a toutes ces recherches sur l'atténuation du bruit, lorsque le marteau tape, mettre un coussin, ces fameux rideaux de boule, on revient dessus. Il y a plein de choses à explorer.
Allez, avant de passer aux questions des auditeurs et auditrices, on va écouter le globicéphale noir, là aussi enregistré en Norvège. Alors pardon, mais c'est quoi un globicéphale exactement? C'est un dauphin?
Donc globicéphale noir, ça ressemble un peu au beluga qui est tout blanc, mais lui il est tout noir.
Donc plus petit qu'un dauphin ou...
Non, il est assez grand. Enfin, il fait à peu près la taille d'une orque en fait.
Ah oui, d'accord, oui, donc c'est carrément
c'est
très
assez
très
grand.
Parce que le beluga c'est un...
Oui, beluga, il est un petit peu plus petit que le...
Donc là, qu'est-ce qu'il fait, ce globicéphale noir de Norvège?
Tout à fait. Donc, les globicéphales noirs, c'est des odontocètes. Ils vivent en grands groupes et ils vocalisent énormément. Ils sont très bavards et ils ont une cohésion sociale qui est très, très importante, très forte. Donc, ils ont besoin de vocaliser beaucoup pour...
ils sont bavards.
Tout à fait.
Allez, on passe aux questions. Et une question intéressante de Brice qui demande si les nouvelles générations d'animaux marins qui grandissent avec tous ces bruits s'adaptent, que cette adaptation soit bénéfique ou pas d'ailleurs pour les espèces.
Laurence Paoli. En fait, il y a des animaux qui peuvent s'adapter. Les poissons, par exemple, ne peuvent pas s'adapter. Les coquillages ou les mollusques ne vont pas s'adapter, ou en tout cas, à ce qu'on sait jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'arrivent pas à s'adapter. Les mammifères marins arrivent à s'adapter dans une certaine mesure. Et là, je passe la parole à Charlotte, qui va pouvoir vous dire comment.
Oui, encore une fois, on ne peut pas faire en fait une réponse qui va être valable sur toutes les espèces. Donc peut-être que certaines espèces vont arriver à s'adapter...
En chantant plus haut, plus bas,
en changeant de fréquence, par exemple, en s'enlevant des fréquences du bruit, donc en chantant un peu plus aigu, par exemple, ou bien en répétant... ou bien en vocalisant plus fort. Mais encore une fois, ça va avoir un petit peu un coût énergétique pour les animaux. Ouais. Et quelquefois, ça marche, quelquefois, ça ne marche pas. Mais c'est pareil pour les animaux terrestres soumis à la pollution sonore.
Mais il y en a beaucoup qui se taisent maintenant, en fait. C'est ce qu'on repère.
Allez, on va écouter le message sonore de Sylvie.
Bonjour la Terre au carré. Est-ce que les câbles électroniques qui transportent l'Internet et qui sont déposés au fond des océans perturbe la communication des êtres marins? Merci beaucoup.
Voilà, même question d'Erwan sur les câbles sous-marins et donc les communications.
Là, j'ai pas vraiment de réponse. C'est plutôt la pose des câbles, ou si on doit les enterrer. En fait, c'est toujours la même chose. C'est à partir du moment où il y a des chantiers qui font du bruit, mais une fois que les câbles sont posés, je pense pas que ça perturbe la communication des animaux marins, à part s'ils ont des électromagnétique.
En fait, on ne sait pas encore, mais il y a des travaux qui vont être faits, là-dessus. Ouais. Il y a eu des appels à projets. Ça, c'est des choses qu'il faut vérifier exactement, parce qu'il peut y avoir des vibrations émises aussi qui dérangent les animaux.
Charlotte Curie, une question pour vous d'Arnaud. Lors de la diffusion de vos playbacks dont vous nous parliez tout à l'heure, comment s'assurer que ces derniers n'aient pas un effet délétère sur les animaux étudiés?
Oui, donc question très importante. Donc tous les protocoles, justement, sont réfléchis pour qu'on n'ait pas d'impact nocif sur les animaux. En plus, on veut regarder leur réponse comportementale, donc on ne veut pas interférer avec leur comportement. Donc on prend toutes les précautions nécessaires aussi pour que ça ne les perturbe pas, le moins possible. Hein. Évidemment, quand on regarde l'effet perturbateur d'un son, on est obligé d'émettre ce son. Mais encore une fois, on ne se met jamais dans des conditions qui vont être létales ou qui vont mettre l'animal en danger, on va dire.
Donc c'est votre réponse, tout va bien.
Voilà.
En tout cas, c'est une des préoccupations des chercheurs.
Oui,
là-dessus,
et puis le design du protocole est vraiment réfléchi. Enfin, c'est pas comme ça, on diffuse un son, c'est vraiment à une certaine distance, on ne s'approche pas des animaux, on vérifie la sensibilité animale de l'espèce, la sensibilité auditive pour être sûr qu'il va entendre ce son, mais sûr aussi qu'il ne va pas être gêné par un son qui pourrait être trop fort pour lui. Donc oui, tout est bien réglementé.
Lucien demande que dire de tous ces scooters des mers avec leurs allers-retours incessants. N'y a-t-il aucune réglementation, Laurence
Paoli? Si, ça commence, je pense que ça, de toute façon, indépendamment des animaux marins, ça pourrit tellement la vie des gens qui sont sur les côtes que oui, je pense que ça va être réglementé de plus en plus. Il y a eu quelques interdictions dernièrement, et effectivement, ça, je pense que c'est un cauchemar pour les animaux marins. Alors c'est près des côtes en général, mais oui, ça serait bien que ce soit régulé vraiment, vraiment, vraiment.
Et qu'en est-il justement de la sensibilisation du grand public sur ces questions-là?
Mon livre est fait pour ça, c'est-à-dire vraiment donner la parole aux chercheurs et expliquer ce qui se passe, expliquer qu'en plus, ça paraît être un problème très loin, mais pas tant que ça. Je pars toujours du postulat que quand on a l'information, on peut toujours en faire quelque chose. On peut modifier très légèrement son comportement. Peut-être que quand on est navigateur, on va plus utiliser sa voile que son moteur. Peut-être que quand on aime faire du scooter de mer, on va maintenant réfléchir à son utilisation. Et puis peut-être simplement en regardant la mer, on va se dire qu'effectivement, il y a un monde sonore incroyable et que c'est intéressant de l'étudier. Et puis là, il faudrait dégager des fonds de plus en plus pour pouvoir étudier ce monde marin extraordinaire dont on connaît très peu, en fait. Ouais. Et ça serait merveilleux.
Charlotte Curie.
Oui, puis il y a aussi se mettre d'accord entre pays, parce que c'est vrai que dans les océans, il n'y a pas de frontières. Les animaux voyagent dans l'océan. Et donc c'est très important d'avoir des accords à l'échelle internationale. Si on met en place des mesures, qu'on les met juste chez nous, ça ne va servir à rien. Donc...
Pascal nous parle d'une série Playback, le Playback sous-marin me fait penser à l'excellente série Extrapolation sur Apple TV qui parle des conséquences du dérèglement climatique, je ne sais pas si vous l'avez vu, dans un épisode d'une société Leur, la dernière baleine vivante sur Terre avec un enregistrement d'un congénère. Ah. Triste histoire, en tout cas, Charlotte Curie.
Je ne l'ai pas vue.
Non, je ne l'ai pas vue non plus, mais c'est vrai qu'elle se parle toujours à travers ce fameux canal et qu'elle se répondent et qu'effectivement... le son pour elle est fondamental et c'est comme ça que ces immenses baleines se parlent à travers des milliers de kilomètres parce qu'il y en a une qui crie « je suis là » et l'autre qui répond « moi aussi » et elles peuvent se rejoindre de cette façon-là en fait. Et c'est assez merveilleux. Donc on peut peut-être les leurrer dans un futur lointain. Voilà.
Merci beaucoup en tout cas à toutes les deux. Le champ perdu des baleines, je renvoie sur cet ouvrage qui paraît ces jours-ci chez Actes Sud, quand la pollution sonore étouffe les voix de l'océan. C'est vous qui le signez, Laurence Paoli, et on retrouve les travaux de Charlotte Curie dans cet ouvrage. Merci beaucoup à toutes les deux.
Merci.